France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. En ouvrant les assises de l'école maternelle, le chef de l'État confirme l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire de 6 à 3 ans. Précision dans un instant de Cécile de Carvaz-Doué. De son côté, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, présente un plan de revitalisation des centres-villes, baptisé Action Cœur de Ville, dont nous parlera Anne-Laure Chouin. On parlera des évolutions dans le domaine de la distribution avec Monoprix, filiale de Casino, et Amazon, qui annonce un partenariat commercial. Explication de Boris Loumagne. Cérémonie demain mercredi aux Invalides en hommage au gendarme Arnaud Beltrame tué vendredi dans l'Aude. L'auteur des attaques de Trèves et de Perpignan devait être entendu par la DGSI qu'il avait convoqué pour un entretien dit d'évaluation. La lettre de convocation lui avait été expédiée en mars dernier. Et puis deux suspects mis en examen hier soir pour homicide volontaire à caractère antisémite, écroués dans l'enquête sur le meurtre vendredi à Paris d'une octogénaire juive. Le corps de Myriel Knoll, 85 ans, a été retrouvé lardé de coups de couteau et brûlé en partie dans son appartement incendié dans le 11e arrondissement. On sera en ligne avec le politologue Jean-Yves Camus pour en parler. L'actualité à l'étranger avec ce dernier fief rebelle aux portes de la capitale syrienne qui continue de se vidé de ses combattants, départ d'un convoi nocturne qui transportait des milliers de personnes hors de la Ghouta orientale. Le régime de Bachar el-Assad est en passe donc de reconquérir l'intégralité de cette province. Analyse avec Nadine Epstein, l'invité de la séquence interview. Tara Schlegel reçoit tout à l'heure Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Et puis à l'instant, on apprend le décès de l'actrice Stéphane Audran, qui était une actrice fétiche de Claude Chabrol, notamment. Elle avait 85 ans. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
Il tente de comprendre pourquoi la loi est si dévalorisée aujourd'hui, pourquoi elle aurait perdu de son sens et de sa symbolique. Il fait tout un parcours à travers l'histoire. Histoire des idées du système législatif et nous explique tout cela. C'est le juriste Denis Barranger qui sera notre invité à l'occasion de la parution de son essai « Penser la loi » chez Gallimard.
Mieux reconnaître le rôle de l'école maternelle, souhait donc de l'exécutif qui veut en faire un lieu de l'égalité réelle. Ouverture ce matin des assises de la maternelle à Paris. Le chef de l'État confirme donc sa décision d'abaisser l'âge de la scolarité obligatoire de 6 à 3 ans. Mesure symbolique puisque quasiment tous les enfants la fréquentent déjà à cet âge, mais qui vise à reconnaître donc une place particulière pour cette école maternelle qui ne doit plus être considérée comme un mode de garde universel ou bien comme la simple préparation à l'école élémentaire. Monsieur Macron a dit vouloir cesser de considérer l'école maternelle comme une option et il lui a donné aussi un rôle central, comme à l'école en général, dans la société. On l'écoute.
La République s'est inventée dans et par l'école. Et c'est à l'école aujourd'hui encore plus peut-être que jamais que se tisse l'étoffe de ce bien commun qu'est notre démocratie et la responsabilité qu'elle nous donne les uns envers les autres, mais aussi envers le monde qui nous entoure. Dire cela en cette semaine n'a là aussi rien d'innocent. À chaque fois que notre nation est frappée en son cœur, d'aucuns ont tendance à vouloir la déchirer en ne traitant que les symptômes. Et s'attaquer à la cause profonde, à une part de la cause profonde, une part qui se love en nous, c'est dans et par l'école. Et c'est en construisant cette école de la bienveillance et de l'épanouissement aussi qu'on construira une génération qui trouve sa place dans la société, qui construit son épanouissement, qui n'aura plus à céder aux pulsions de mort qui finissent par fasciner quelques-uns parce qu'ils n'y ont pas construit leur propre avenir.
Voilà, de grandes ambitions donc pour l'école. Bonjour Cécile de Carvaz-Doué.
Bonjour.
Bon, sur le fond quand même, on peut dire qu'il y a cet abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire, mais comme je le disais, presque 97% des enfants vont déjà dans cette école maternelle. Et puis sur le plan des programmes, il n'y a pas non plus de très grande évolution. C'est surtout, on peut dire, un changement de regard que le chef de l'État souhaite que l'on opère sur cette école maternelle.
Oui, et pourtant c'est une révolution, c'est historique, a acclamé le président Macron ce matin en plaçant sa décision de rendre l'instruction
l'instruction obligatoire à partir de 3 ans. Nous sommes les seuls à le faire en Europe. Aujourd'hui, dans la droite ligne de la réforme du général de Gaulle, qui avait étendu la scolarité à 16 ans, et avant lui, Jean Zay, qui l'avait étendu de 13 à 14 ans. Dans un discours de près d'une demi-heure, le président a expliqué vouloir poursuivre l'œuvre d'égalité et de progrès de l'histoire de notre éducation nationale. L'école pour tous à 300, c'est donc une question d'égalité, selon lui, parce que derrière ce chiffre que vous avez cité de 97% des élèves scolarisés en maternelle, il y a des disparités, selon les territoires, dit-il, mais aussi des différences d'assiduité, puisque beaucoup d'enfants, particulièrement dans les quartiers défavorisés, n'iraient pas à l'école l'après-midi, notamment parce que les parents n'ont pas les moyens de payer la cantine, nous dit le président. Une question d'égalité aussi par rapport au langage, qui est la clé de tout apprentissage. Aujourd'hui, un enfant d'un quartier défavorisé connaît à 4 ans 30 millions de mots en moins par rapport à un enfant favorisé. Pour Emmanuel Macron, c'est la cause profonde du décrochage scolaire, puisque sur 20% des élèves qui en CM2 ne maîtrisent ni la lecture, ni l'écriture, ni le calcul, 80% d'entre eux avaient déjà des problèmes au CP. On voit là comment cette mesure appliquée dès la rentrée 2019 s'inscrit dans la politique de lutte contre les inégalités scolaires du président, qui pour rattraper les problèmes du collège mise finalement sur le primaire et aujourd'hui on l'entend sur la maternelle. Reste des questions en suspens et notamment celle des moyens. Moyens pour les ATSEM, ces personnes qui accompagnent dans chaque classe les enfants et sans qui rien n'est possible en termes d'apprentissage. Reste la question des moyens de formation aussi des professeurs, notamment sur ce que le président appelle les apprentissages affectifs. Comprenez la culture et les arts et surtout la question des moyens pour le sommeil dont il n'a pas été question dans tout ce discours présidentiel et qui est pourtant un temps essentiel en maternelle.
Merci Cécile. Tout petit rectificatif sur le nombre de mots en moins. Je crois que vous avez parlé de 30 millions, c'est 3 000 sans doute.
Non, il me semble avoir entendu 30 000.
Ah bon, d'accord. Ok, on va mettre ça en débat.
On va dire
excusez-moi.
Peut-être 3 000, sans doute.
Merci beaucoup Cécile de Carvazouet. De son côté, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, est en déplacement à Châtellerault, dans la Vienne, pour y présenter un plan gouvernemental de revitalisation des centres-villes, qui est baptisé Action Cœur de Ville. Il y a un total de 222 villes de taille moyenne qui sont retenues donc pour bénéficier de ce plan dans un premier temps. C'est en fait l'idée de ramener des habitants, mais aussi des commerces, dans les cœurs de ville actuellement désertés. Anne Lorchois.
Oui, et ce gouvernement n'est pas le premier à tenter de le faire. L'année dernière, suite à un rapport accablant de l'Inspection Générale des Finances, des assises du centre-ville organisées par la secrétaire d'État au commerce d'alors, Martine Pinville, avait accouché de plusieurs mesures et €1 million pour un fonds d'intervention en faveur de la redynamisation des centres-villes. En tout cas, l'enjeu est important et il est aussi politique, car la carte des centres-villes les plus dévitalisés correspond presque exactement à celle des meilleurs scores du Front National. Parmi les centres-villes qui comptent le plus de vacances commerciales, on trouve ainsi Béziers ou Forbach. Les moyens délivrés par ce gouvernement semblent beaucoup plus ambitieux. Cependant, 222 villes, vous l'avez dit, bénéficieront de plus de 5 milliards d'euros sur 5 ans. De Douai à Limoges, en passant par Avignon, Roanne, Saumur, Colmar ou Perpignan, ce plan vise à la fois à réhabiliter des logements et les proposer à des loyers modérés, à améliorer les conditions de vie dans ces mêmes centres-villes et bien évidemment à redévelopper une offre commerciale qui avait disparu au profit des périphéries, en accompagnant notamment les petits commerçants vers leur transition numérique et en les aidant à s'implanter en centre-ville. Tout cela sera formalisé dans des conventions cadres liant les parties au niveau du territoire. Est-ce que ça suffira à empêcher les élus locaux de vouloir absolument et chacun leur zone commerciale en périphérie, des zones qui ne correspondent plus désormais au pouvoir d'achat des publics auxquels elles s'adressent et qui finissent inéluctablement en friche commerciale? En tout cas, le projet présenté ce matin par le ministre de la Cohésion des Territoires insiste sur la nécessaire coordination entre les acteurs du territoire pour imaginer des projets cohérents qui auront d'ailleurs tous des directeurs de projet. Mais si cela suffit à refaire des centres-villes, des lieux de vie, les périphéries, elles, auront été durablement défigurées.
Merci Anne Lorchois. Ce n'est pas sans rapport avec l'aménagement du territoire, la révolution dans la grande distribution. En tout cas, tous les grands groupes renforcent leur position actuellement dans le commerce en ligne. Ainsi, Monoprix, qui est une filiale de Casino, et Amazon annoncent un partenariat commercial. Alors, ça vise à proposer les produits alimentaires de Monoprix sur l'application, sur le site Amazon Prime Now, via une boutique virtuelle, donc tout à fait spécifique. Boris Loumagne, bonjour.
Bonjour.
Peut-être d'abord en quoi consiste précisément ce partenariat.
Alors, des produits Monoprix livrés en moins de 2 heures à domicile par Amazon, voilà schématiquement ce que signifie ce rapprochement. Dans le détail, ce nouveau service de livraison se concentrera cette année sur Paris et sa proche banlieue. Seuls les clients du service premium Amazon Prime pourront en bénéficier, mais c'est bien Monoprix qui fixera les prix. Sur le site internet du géant américain, entre 5 000 et 10 000 produits seront disponibles. Toutes les marques Monoprix, bien sûr, Monoprix gourmet, Monoprix bio, mais aussi les grandes marques nationales et internationales, ainsi que des produits frais.
Alors évidemment, c'est une annonce qui n'est pas isolée, puisqu'elle intervient le jour même du lancement par Leclerc de son service de distribution alimentaire à domicile à Paris. Et puis Carrefour qui fourbille ses armes pour repartir l'offensive dans le digital. Comment ça se présente finalement cette question générale pour les grands groupes du secteur de la distribution?
Alors si l'on prend les leaders du secteur, ils ont peu ou prou la même stratégie. Casino et donc Monoprix confortent sa position sur la livraison à domicile. Confortent parce que Monoprix dispose déjà d'un service de livraison. Mais en signant ce partenariat avec Amazon, la filiale du groupe Casino aspire les clients du service premium du géant américain, des clients citadins, CSP+, à fort pouvoir d'achat. Stratégie quasi similaire chez Carrefour, l'avenir ce n'est pas l'hypermarché de zone commerciale, c'est le commerce de proximité, la vente en ligne. Un site internet va d'ailleurs ouvrir dans le courant de l'année. L'avenir, c'est le client connecté. L'avenir, c'est aussi le bio. Carrefour veut quadrupler son chiffre d'affaires dans ce secteur. Les bobos, nouvelle cible de la grande distribution qui part à l'assaut des villes. Et justement, Leclerc a annoncé hier qu'il se lançait dans la livraison à domicile à Paris. Une manière de répondre au rapprochement Monoprix-Amazon. Voilà pour les stratégies d'ancrage en France. Et puis, il y a ceux qui décident d'investir à l'étranger. C'est le cas d'Auchan qui, en s'alliant avec le géant Alibaba, va développer ses hypermarchés en Chine et non plus dans les campagnes ou les périphéries des villes françaises.
Boris Loumagne, merci bien. L'Assemblée et le Sénat vont rendre hommage tout à l'heure, hommage solennel aux victimes des attaques djihadistes de l'Aude, avec des minutes de silence. Et une question au gouvernement aussi, de chaque groupe politique à l'Assemblée, qui sera suivie d'une réponse groupée du Premier ministre. C'est demain, mercredi, que se déroulera aux Invalides la cérémonie publique en hommage au gendarme Arnaud Beltrame. On a appris ce matin que l'auteur des attaques de Trèves et de Carcassonne, et non pas Perpignan comme je l'ai dit tout à l'heure, devait être entendu par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure qu'il avait convoqué pour un entretien dit d'évaluation. C'est une lettre de convocation qui lui avait donc été envoyée, expédiée au mois de mars. Son suivi effectif était toujours en cours en mars 2018. Il n'avait pas permis de mettre toutefois en évidence des signes précurseurs d'un passage à l'acte, ni des velléités de départ sur la zone irako-syrienne. C'est ce qu'affirmait hier soir en tout cas le procureur de Paris, François Molins. Deux proches de l'assaillant, dont sa compagne de 18 ans, fichée comme lui pour radicalisation, sont toujours en garde à vue ce matin. Et puis ajouté dans le domaine politique, ce commentaire de Manuel Valls qui souhaite l'enfermement de certains fichiers S de manière préventive. On salue l'invité de la dernière partie de la grande table, qui est un constitutionnaliste, Denis Baranger. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, finalement, de Manuel Valls ou de certains plus à droite, de prendre des mesures sur les fichiers S, notamment, pour éventuellement les empêcher de passer à l'acte?
Alors, moi, je suis universitaire et je ne suis pas politique. Je ne veux pas me mêler de la polémique politique. J'ai simplement une réaction de prudence, parce que, à ma connaissance, les fiches S, c'est des procédés matériels de police administrative. Ça sert à renseigner les fiches en question sur des personnes intéressantes pour la police. Et puis ça sert aussi, parce que ça va dans des fichiers électroniques, à biper quand ces personnes veulent quitter le territoire. J'ai pas du tout la certitude, je pense pas non plus que la police ait la même certitude, que ça puisse permettre d'arrêter des gens. C'est des fiches de renseignement. Si vous voulez, il y a une présomption...
Au niveau du droit, il y a un problème.
Il y a un problème, il y a une présomption d'innocence en France. En France, on arrête des gens que s'ils sont condamnés pour des faits qui sont avérés. Là, on irait vers de la rétention. On peut faire ça, mais c'est un pas significatif de franchi du point de vue des libertés.
Denis Baranger, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure dans la dernière partie de la grande table, notamment pour parler de la réforme constitutionnelle en cours. Deux suspects mis en examen hier soir pour homicide volontaire à caractère antisémite écroués dans l'enquête sur le meurtre. C'était vendredi à Paris d'une octogénaire juive, le corps de Muriel Knoll, 85 ans, qui a été retrouvé lardé de coups de couteau et en partie brûlé dans son appartement. qui a été incendié donc dans le 11e arrondissement de Paris. Le premier suspect est connu des services de police pour les affaires de viol et d'agression sexuelle. C'est un voisin, paraît-il, qui avait l'habitude de rendre visite à la victime, qui était passé d'ailleurs dans son appartement dans la journée. Et le second, connu aussi pour des vols avec violence, qui se trouvait aussi dans l'immeuble le jour du meurtre. Tweet du chef de l'État, réaction ce matin, j'exprime mon émotion devant ce crime épouvantable commis contre Madame Knoll. Je réaffirme ma détermination absolue à lutter contre l'antisémitisme. Et puis le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, appelle les adhérents de La République En Marche à se rassembler demain soir à la Marche Blanche qui est organisée par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. On est en ligne avec le politologue Jean-Yves Camus. Bonjour.
Bonjour.
Sur les faits eux-mêmes, d'abord Jean-Yves Camus, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à éclaircir ?
Oui, il y a évidemment encore beaucoup de choses à éclaircir. On ne sait pas grand-chose à ce stade de l'identité des personnes qui sont en garde à vue. L'incrimination aggravante de mobile antisémite a été retenue. Pour autant, il reste à savoir exactement quel était le degré d'antisémitisme, si j'ose dire, des personnes qui sont actuellement placées en garde à vue, quelle sorte d'idéologie ils défendaient, s'ils étaient acquis à une cause ou une autre, comment ils en sont venus là. Il y a encore beaucoup de points à élucider dans cette enquête.
Alors, s'attaquer à un juif, c'est s'attaquer à la France, disait le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui reprenait donc cette phrase célèbre. Comment vous analysez-vous les réactions, pour l'instant, à ce meurtre suscité par l'assassinat, donc ?
Il y a une mobilisation qui, effectivement, est significative. Vous avez mentionné le tweet du chef de l'État. On peut mentionner aussi l'appel de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à tous les Parisiens pour qu'ils participent demain soir à la marche blanche qui est organisée. Tout ça est évidemment tout à fait réconfortant, mais on voit aussi sur les réseaux sociaux, et même dans certains commentaires écrits, quelque chose qui me gêne un petit peu, qui est, au fond, l'expression du fait que ce serait la communauté juive qui serait spécifiquement ébranlée par cette affaire, ce serait elle qui, au fond, serait la plus touchée par ce qui vient de passer, ce qui semble induire d'une certaine manière que cette émotion, ma foi, s'il est naturel qu'elle soit partagée au sein de la communauté juive, ça ne va pas autant de soi pour ceux qui n'en font pas partie.
Mais est-ce que c'est une réalité ou pas ? Parce que... Selon
la réponse demain soir. La réponse demain soir, selon le nombre et la provenance de celles et ceux qui assisteront à cette marche blanche. Parce que la phrase de Gérard Collomb, nous l'avons entendue à maintes reprises depuis pratiquement toutes les affaires de la même ampleur, je pense en particulier à l'affaire Ilan Halimi en 2006, les gouvernants en place, quel que soit leur bord politique, ont toujours dit, quand on touche à un juif, on touche à la France. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, et qu'effectivement l'État a fait son travail de prévention de la radicalisation, son travail de condamnation des auteurs d'actes et de propos antisémites, on constate que cette année, on a certes une diminution statistique du nombre d'actes antisémites commis, 311 très exactement l'année dernière, mais qu'on a une augmentation de la violence des actes en question et que le nombre des actes antisémites est sans commune mesure avec l'infime partie, moins de 1%, l'infime partie de la population française que représentent les Juifs de France. Donc on a un problème qui, malgré les déclarations dont je ne doute pas de la sincérité, n'est pas résolu.
Jean-Yves Camus, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. Un tout petit mot peut-être de notre invité, l'invité du journal, Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. J'imagine Bonjour. Que vous vous associez évidemment à tout ce qui a été dit autour de cette affaire et de cet assassinat de Madame Knoll. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Que tout a été dit et que j'appelle vraiment à ce rassemblement citoyen pour protester vraiment contre cette violence, parce que au-delà de son appartenance à la communauté juive, c'est une vieille dame de 85 ans qui a été torturée et qui a été tuée. Donc vraiment, un appel à la citoyenneté, rassemblons-nous vraiment dans une communion, parce que vraiment c'est important de manifester notre solidarité contre ce geste ignoble.
Sophie Cluzel, on vous retrouve dans une petite minute. On va dire un mot quand même de l'actualité à l'étranger aussi, puisque le dernier fief rebelle aux portes de la capitale syrienne continue de se vider de ses combattants. Il y a eu des évacuations qui se poursuivent, donc départ d'un convoi nocturne qui transportait des milliers de personnes hors de cette route orientale, et le régime de Bachar al-Assad qui finalement est en passe de reconquérir l'intégralité de cette région, avec un doute peut-être sur la ville de Douma, Nadine Epstein.
Oui, et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, à l'aube, près de 7000 personnes ont quitté la Ghouta à bord de 100 bus. Un quart des hommes évacués seraient des rebelles qui ont rendu les armes, leurs familles, mais il y a aussi de simples civils. À ce jour, il s'agit du plus vaste convoi à quitter la Ghouta. Les opérations devraient se poursuivre aujourd'hui pour faire sortir 30 000 personnes. Une certaine confusion règne sur l'acceptation ou non des insurgés de quitter leur dernière poche, celle de Douma. L'arrivée massive de déplacés aurait doublé la population et le sort de 200 000 personnes dépend des pourparlers en cours avec les Russes. Négociations pour un maintien sur place, insiste un porte-parole des rebelles, tandis que l'OSDH précise que le pouvoir propose un retour des institutions du régime et des services de base, eau, électricité, et le déploiement non pas de l'armée syrienne, mais celui de la police militaire russe, en contrepartie du désarmement des combattants. Les bus des évacuations massives escortés par des militaires russes se rendent dans le nord-ouest du pays, dans la province d'Idleb, où sont déjà arrivées plus de 10 000 personnes depuis jeudi. Les rebelles et les djihadistes sont repliés dans la province d'Idleb et de Dera au sud, qui échappent au contrôle du régime de Bachar al-Assad. Les Kurdes dominent le nord-est et le boucher de Damas règne sur près de 60% de la Syrie.
Nadine Epstein. Retournez dans notre invité, donc Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, interrogée par Tara Schlegel.
Oui, bonjour Antoine, bonjour Madame Cluzel. On va parler d'abord des enfants handicapés qui ont toute leur place à l'école depuis la loi de 2005, mais en vérité, ils ne sont que 2% d'entre eux à être vraiment dans nos écoles ordinaires. 98% des petits-enfants handicapés ne vont pas dans des écoles classiques. Est-ce que vous faites un constat d'échec, Madame Cluzel ?
Alors, d'abord, je voudrais rectifier. C'est 2% des enfants handicapés par rapport à l'ensemble des enfants valides.
Ah, par rapport à l'ensemble. Donc, voilà. En tout cas, ça fait 260 000
260
à peu près.
260 000 et il y en a 80 000.
Pourcent, alors, par rapport aux
enfants
handicapés.
Il y en a 80 000 qui vont dans des établissements spécialisés. Hein, oui. Donc, plus des deux tiers sont à l'école ordinaire.
Ah, les deux tiers, voilà, d'accord. Donc, j'avais trouvé aussi ce chiffre étonnant, je l'avais entendu dans votre bouche, je l'ai relu tout à l'heure, donc c'est 2% par rapport à l'ensemble des enfants.
Oui, c'est que les élèves handicapés représentent 2% de l'ensemble des élèves. Voilà.
Donc pour eux, vous faites maintenant plus de choses, vous formez notamment les enseignants, enfin en tout cas c'est votre ambition, et vous allez ramener des personnels qui sont médico-éducatifs à l'intérieur des écoles.
Alors c'est le grand chantier de l'école inclusive, je rappelle que c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Moi je viens justement en appui de cette transformation que l'on veut avoir sur une école inclusive, c'est-à-dire, en effet, c'est qu'il n'y ait plus de solution ailleurs qu'à l'école pour les enfants handicapés. Ils sont citoyens, font partie de notre République. La loi de 2005 l'infirme, ils ont un droit à l'éducation et on veut que cette éducation soit au sein des murs de notre école, dans une nouvelle école qu'on est en train de co-construire avec Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire que ça ne soit pas que l'affaire de l'école, mais qu'il vienne justement des ressources qui sont issues du médico-social, qui sont spécialisées, qui connaissent bien tout ce qui est réadaptation et adaptation et qu'on en fasse une école où les regards se croisent et les personnels de différentes institutions puissent venir au travail au service d'un parcours.
Mais en ce qui concerne les professeurs qui sont déjà devant des enfants en situation de handicap, qui parfois ne savent pas exactement comment se comporter, que faites-vous pour eux ? Parce que là, c'est la formation continue. Et on sait qu'en France, les professeurs sont quand même assez peu formés de façon continue chaque année quand ils sont déjà en poste.
Alors justement, pour répondre à ces 2% hein, d'élèves handicapés, c'est intéressant de pouvoir être réactif. C'est-à-dire que quand un enseignant est en situation de scolarisation d'un élève handicapé, il trouve les ressources pour mettre en place sa pédagogie adaptée. Donc, il y aura à la rentrée une plateforme numérique de ressources sur tous les différents types de handicap et adaptations possibles qui sera graduée selon les problématiques rencontrées. Il y aura aussi des personnels ressources qui seront mis à disposition, des enseignants spécialisés qui seront vraiment accompagner l'enseignant, accompagner les différents membres de la communauté éducative sur comment scolariser cet enfant, comment mettre en place les adaptations et les pédagogies adaptées.
Donc ça va passer beaucoup par Internet, mais aussi par peut-être des gens qui viendront véritablement aider les professeurs. On va parler d'autre chose, de l'enseignement supérieur. Il y a eu une grosse controverse autour de Parcoursup. Les familles des personnes handicapées ont été assez affolées de voir qu'il y avait un certain nombre de commissions académiques dans lesquelles les cas individuels étaient examinés aussi par les professeurs référents qui avaient suivi les enfants pendant toute leur scolarité. Ces commissions ont été pour certaines d'entre elles au moins supprimées. Comment est-ce que vous avez rattraper en fait le coup puisque le handicap n'apparaît plus dans ces demandes d'entrée dans l'enseignement supérieur.
Alors là aussi, je m'inscris en faux parce que, au contraire de quelque chose d'exceptionnel, on en fait quelque chose de naturel dans le droit commun. Puisque dans Parcoursup, justement, tous les élèves en situation de handicap pourront être affectés par le recteur dans la filière de leur choix. Donc on arrête justement ces filières sélectives par rapport au type de handicap. Il y aura des éléments descriptifs sur le parcours de vie ou sur les besoins spécifiques. Et je dirais que c'est à la demande de la personne handicapée elle-même, du lycée handicapé, qu'il pourra ou non déclarer sa situation de handicap et ses besoins spécifiques. Et il n'y avait que 5 académies qui mettaient en place ces accompagnements spécifiques. Là, on l'étend à toute la France. Donc, au contraire, Parcoursup travaille sur l'égalité des chances, ce qui est très important, et l'accompagnement des étudiants.
Mais donc vous,
Dernière question.
Donc vous êtes persuadé que ce système-là améliorera les choses pour les enfants, jeunes handicapés.
L'objectif avec Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, on n'a que 25 000 étudiants handicapés aujourd'hui. Donc c'est moins de 1,3%. L'idée, c'est de pouvoir faire monter en qualification ces élèves, ces lycéens, en les accompagnant comme il faut, justement pour pouvoir faire crever ces plafonds de verre, lever l'autocensure et les accompagner à une qualification.
Merci beaucoup. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, merci à vous. Tara Schlegel, la météo rapidement, les nuages qui l'emportent, un temps maussade, parfois pluvieux, température de 8 à 17 degrés cet après-midi. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.